Bonjour à tous et bienvenue avec des joueurs ordinaires. Et nous sommes au mois de mai, nous sommes très contents de nous retrouver à Paris sur cette petite table chez Christophe pour pouvoir enregistrer une véritable émission après ces deux grosses émissions du Festival International du Jeu de Cannes, tu vas dire. Et voilà, avec tous les auteurs que nous avons interviewés qui nous ont fait vraiment un immense plaisir et surtout qu'ils nous ont fait quelques petits retours par rapport aux interviews. On est vraiment très contents de voir que ça leur a plu et on espère que ça vous a plu aussi à vous d'écouter tout ça. Donc je disais, une grosse émission qu'on va vous donner là tout de suite, que vous êtes en train d'écouter. Et bien sûr, je ne suis pas tout seul pour l'animer ni pour la chroniquer. Autour de moi et à côté de moi, à ma droite, il y a Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu?
Salut Zef.
Ça va?
Ça va très bien.
Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Eh bien, en ce moment, je prépare la chronique du mois prochain, puisque je fais beaucoup de jeux à deux.
Ah
et oui. Avec Florette, on va vous présenter plein de jeux à deux, plus certains récents, plus d'autres plus anciens, qui sont peut-être un peu moins connus ou oubliés. Et on va essayer de réveiller et dépoussiérer tout ça.
Ça, c'est super intéressant, parce que souvent, les petits jeux à deux, quand on est un couple et qu'on essaie de trouver de quoi jouer quand on est qu'à deux, c'est pas super simple. Donc, ça va être super cool. À côté de toi, il y a Eriamello. Bonjour Eriamello, comment vas-tu?
Bonjour à tous, ça va très bien.
Quel est ton poison en ce moment?
Le poison, je me suis remis à lire des jeux de rôle. Je me suis racheté deux jeux de rôle récemment et je prépare ça. Je vais vous masteriser bientôt un scénario et une campagne.
Putain, mais on fait que du teasing, c'est incroyable. C'est peut-être le jeu de rôle que tu vas nous présenter dans quelques émissions là.
Peut-être, si j'arrive à en venir à bout.
si t'as pas tué avant. Et à côté de toi, il y a Kétrus, notre technicien, ingénieur de son préféré. Comment vas-tu, Kétrus?
Oui, chef. Ça va très bien, Zef, merci.
Qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment?
Qu'est-ce que je fais en ce moment? Moi, on m'a fait tester Star Wars Rebellion,
le
gros jeu. Ouais.
Tiens, justement, je vais me tâter, j'ai vu la boîte au musée la dernière fois, je sais pas si je voulais apprendre.
Je trouve que c'est un très bon jeu, franchement, les mécaniques sont hyper bien huilées, c'est du l'asymétrique 1 contre 1. C'est un jeu qui est très long.
Ouais. C'est un garde de l'anneau like. Il faut une table de 10 mètres de long.
En fait, c'est un peu le jeu où t'es obligé de d'abord commencer à faire une petite phase d'initiation. Genre, tu fais un tour ou deux qui va te prendre un peu plus d'une heure, quoi. Parce qu'au début, c'est très compliqué à tout appréhender. Et après, tu recommences un jeu. C'est ce qu'on m'a fait faire. On a commencé à 22h. On a dû finir à 3-4h du mat, un truc comme ça.
Ça donne envie, hein.
Par contre, non, franchement, alors ça vaudrait peut-être le coup de faire une chronique dessus. Mais ce que je peux te dire déjà, c'est que le jeu est très beau, les illustrations sont super bien faites et les petites figurines sont cool.
C'est Edge encore qui fait ça?
Ouais, c'est toujours pareil. Et tu vas avoir des petites cartes missions juste très rapidement jeudi. Et en fait, toutes les cartes missions, toutes les cartes actions, tout ça sont liés à l'univers et ça marche super bien, quoi.
Moi j'attends le jour où Edge va nous sortir un truc en disant: ah, vous jouez à tous nos jeux Star Wars? Bah écoutez, on a fait une campagne qui vous fait voyager à travers tous nos jeux, acheter tout d'un coup.
Il y a déjà eu des propositions en ce sens pour lier les trois jeux de rôle et X-Wing.
Ah oui, mais ça c'est facile, encore une fois, genre, enfin, c'est plus simple parce que tu peux faciliter les règles du jeu de rôle sur les niveaux vaisseaux qui sont quand même un peu lourdes et que tu peux faire sur X-Wing pour faciliter un peu tout ça et puis faire un peu plus d'entertainment pour tes joueurs autour de la table. Mais je suis sûr qu'il y a des... Si vous avez fait ça, s'il y a un auditeur qui nous écoute et qui a trouvé un moyen, une campagne, même une campagne, juste une histoire pour dire voilà comment on peut commencer avec l'Empire ou la Rébellion et passer par le jeu de rôle, puis X-Wing, puis Armada. Éviter Armada. Voilà, faire un gros truc comme ça et en passant par Destiny, Star Wars Destiny. Bah, parce que moi aussi, j'ai mon petit truc en ce moment. Franchement, dites-le nous parce que moi, ça m'intéresse vachement. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, alors, moi, je suis très content parce qu'on a un petit peu bossé dessus. On avait parlé le mois dernier d'un concours qu'on voulait mettre en place. Et ben voilà, ça arrive, c'est aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà participer au concours qu'on met en place avec notre site ami qu'on aime beaucoup, le coffre à jouer. Enfin, je dis site ami, il y a un petit partenariat avec eux. Ils vont vous faire gagner une boîte, un coffre à jouer, c'est-à-dire un mois. Vous allez recevoir chez vous une box coffre à jouer avec tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et pour ça, il faudra participer au concours qu'on va vous balancer au fur et à mesure de l'émission. Comment ça va se passer? Chacun d'entre nous, en commençant par moi, puis chacun de mes chroniqueurs, vont balancer un espèce de code name. C'est-à-dire qu'au moment où vous écoutez cette émission, vous pouvez d'ores et déjà aller sur la page du site Le Coffre à Jouer, donc sur leur Facebook. Et là, vous aurez devant vous une grille de 25 noms. 25 noms de jeux de plateau, 5 sur 5, donc 25 en tout, on a dit, hein, où vous allez avoir plusieurs noms. Je vais pas les dire tout de suite pour pas donner d'indices, mais voilà, comment ça se passe? Moi, je vais à un moment dans l'émission balancer un mot et un chiffre juste derrière. Ce sera explicitement dit, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper, ce sera forcément ça. Et il faudra retrouver le nombre de jeux de société que je veux vous faire deviner avec ce mot. Je donne un exemple, hein, si sur la grille il y a échiquier, dame et belote par exemple, et que je vous dis pion ou damier 2, eh ben, ça veut dire que vous allez devoir me répondre échec et dame, mais pas la belote parce qu'il n'y a pas de plein damier dessus. Voilà. Donc tout ça, lorsque vous avez vos réponses, vous nous les envoyez à nous en DM, donc sur la Ligue des Joueurs Ordinaires sur Facebook ou sur Twitter, si vous nous suivez, je vous invite à le faire. Et celui ou celle qui aura le plus de points à la fin du mois gagnera évidemment le coffre à jouer. Et s'il y a des ex-échos, bah, on tirera au sort. Voilà, on va commencer l'émission tout de suite avec les coups de cœur, parce qu'il n'y aura que des coups de cœur autour de cette table ce mois-ci, je l'ai décidé ainsi, et ensuite on attaquera nos chroniques avec Christophe, puis Eriamelo et Ketrus. Allez, qui ouvre les coups de cœur, messieurs?
Allez, je le fais.
Vas-y, lâche-toi.
Alors, je suis très content, parce que c'est un peu comme la chronique qu'on avait faite sur Versus System, qui était à la base un jeu de cartes à collectionner à l'époque, et qui est revenu en jeu de cartes...
évolutif.
Voilà, évolutif, pardon. Et là, Fantasy Flight Game le fait avec Legend of the Five Rings, qui était un énorme jeu de cartes à collectionner auquel j'ai pas beaucoup joué, malheureusement. C'est toujours été un regret que j'ai eu parce que...
Alors, si tu t'ennuies un jour, j'ai au moins 42 starters, voilà, à ouvrir.
J'en étais sûr. Et voilà, donc Fantasy Flight Game le relance en jeu de cartes évolutif. Ils avaient acheté les droits en 2015, en septembre 2015. Et voilà, deux ans après, on va voir ressortir ce fabuleux jeu chez eux. Alors, apparemment, la sortie a lieu, est prévue pour la fin 2017, avec évidemment un preview et un test du jeu pendant la Gen Con Indianapolis. Bon, on va y aller, c'est ça, c'est
bah, alors, je demandais à Radio Kawa de nous défrayer et malheureusement, ils ont dit non.
Si on atteint les 50 000 retweets.
non, évidemment, je kifferais du ouf, voilà. Y aller. Mais...
Tout est prêt, ils ont fait une énorme news sur leur site. Alors, par contre, c'est en anglais où ils expliquent la base du jeu. Il y a des superbes illustrations, on voit pas mal de cartes. Et ils ont même donné un prix $40 pour le starter.
Ça va, donc 60€ en France, c'est pas si cher.
Non, ça sera pas 60€.
Rémilo, ton petit coup de cœur.
Mon petit coup de cœur, c'est un travail fait par un site de fans qui s'appelle The Overlord. C'est un site de fans de Conan, le jeu de plateau. Mm-hmm. Et ils ont édité un cueil de scénario et Monolith a décidé, bah, vous faites ça, nous on vous l'imprime, on vous paye l'illustration et vous le distribuez gratuitement.
Oh putain, sympa. Enfin oui, ouais, sympa, franchement sympa, ouais. Cool.
Donc ils en ont imprimé 500, ceux qui n'ont pas pu le récupérer à Paris, ils auront juste à payer le frais de port et il y en aura a priori un tous les trimestres.
Ah putain, l'idée est vraiment cool. Pour une fois, on critiquait...
Fred Henry.
Je critiquais Fred Henry sur, enfin surtout le jeu, pas Fred Henry en tant que tel, mais le fait qu'effectivement il manquait cette espèce de truc évolutif sur Conan, et bah là se servir des fans pour faire ça, c'est super cool, non?
Le ouais, premier cool, ouais. Est donc vient d'être imprimé, le deuxième est quasiment bouclé, d'ici 2-3 mois le temps d'écouler le premier.
Alors 500, ça me semble peu, non? C'est pas
500, sachant qu'il y a eu 2000 boîtes vendues en France, c'est raisonnable. Sachant que tous les scénarios sont disponibles en téléchargement sur le site de The Overlord.
Ah oui,
donc c'est juste pour avoir le bouquin physique, si tu préfères l'avoir en physique au mieux de l'avoir en téléchargement.
Oui, en fait, tu peux l'avoir en PDF et l'imprimer et le mettre, voilà, dans un classeur, comme tous les bons releases. D'accord, bah c'est cool, c'est une bonne chose. C'est plutôt cool de récompenser, une bonne récompense pour les fans. Moi, j'aime bien ce genre de choses, hein, Christophe.
Ah oui, surtout qu'il y a des belles illustrations, quoi.
Ah oui, non.
Les illustrations, donc du coup, c'est les mêmes illustrations.
C'est Klarenko, celui qui faisait les plateaux de jeu, qui a fait les couves.
Ah ouais, voilà, donc les mecs ont un vrai produit entre les mains, ils doivent être comme des fous, les gars. C'est super cool. Christophe, ton petit coup de cœur.
Eh ben moi, je vais vous parler de Secret Hitler. Secret Hitler, c'est un jeu qui a été lancé en Kickstarter, qu'on peut aussi trouver en print and play. Et c'est un jeu à rôle caché, un peu comme Résistance, mais je trouve plus fun encore, où on va lire un chancelier et parmi les rôles cachés, bah il y a Hitler et il y a des nazis. Alors les nazis savent qui est Hitler. Hitler ne sait pas où se cachent les nazis. Mais tout ce petit monde va essayer de magouiller pour se faire élire et faire élire des lois nazies, voire faire élire Hitler chancelier. C'est de très mauvais mauvais esprit, mais c'est très très drôle. Alors par contre, quand on joue en public, entre autres dans un lieu public, et qu'on commence à se traiter de nazi, on dit mais c'est lui le nazi, non mais c'est lui Hitler, mais est-ce que tu es Hitler? Ça fait bizarre.
Mais ça va être de bonne aloi, j'ai envie de dire. En plus, ça correspond bien à l'actualité.
Pour ceux qui sont un peu fâchés avec les nazis, il y a une version Secret Palpatine qui existe.
Ah voilà, là tu me parles mieux là.
Ouais, mais je sais pas, c'est pas pareil.
Il y a des Jedi, non? Non, mais franchement, non, je préfère la version Star Wars pour le coup, parce que c'est un peu moche sinon, mais bon,
non, mais
on n'est pas joué à Barbarossa
non
plus.
Voilà, c'est la seule référence hein, par rapport aux nazis, etc. Il n'y a que nom nazi et Hitler, quoi. Ouais.
Il n'y a même pas nazi, c'est...
C'est nazi.
Ouais. On va pas se battre sur savoir si c'est nazi ou pas. Non, on s'en fout un petit peu finalement.
Non, mais voilà, par contre, c'est un très très bon jeu d'ambiance et vraiment on se marre bien.
Ouais, offrir pour Noël à la belle famille.
Oui, tout à fait.
Introuvable. C'est que c'est introuvable.
Alors oui, on le trouve où celui-là?
Justement, on peut pas le trouver parce qu'il est en Kickstarter, donc il faut essayer de le trouver en occasion. Par contre, le matos, il est magnifique.
Ah, ils ont fait du montage.
Ah ouais, ils ont fait un super chouette matos. Il est très simple, c'est ces petites cartes, etc. Mais la boîte, elle est en bois. Enfin, c'est un peu gravé, etc. C'est vraiment très très beau. En plus, le matos, c'est vraiment très très chouette à faire.
C'est marrant qu'il n'ait pas été produit par, édité par une grande boîte. Bref, écoutez, moi, je vais faire mon petit coup de cœur aussi, double coup de cœur pour le coup, parce qu'en ce moment, j'essaye de jouer beaucoup à Star Wars Destiny, même si c'est en rupture de stock au niveau des boosters. J'attends que les boosters soient renouveaux en vente parce que j'ai envie de jouer beaucoup beaucoup à ce jeu, j'aime beaucoup, et je suis assez content parce que Dark Souls, donc j'avais backé l'année dernière, a envoyé les règles mais les règles sont sorties, donc c'est que le jeu est bientôt disponible, donc je suis vraiment très excité. J'ai lu les règles pendant toute une nuit, c'est pas très dur et ça a l'air super cool, donc je vous en reparlerai sûrement dans 2 mois et je ferai une chronique tout seul dessus. Voilà, merci.
Moi aussi j'ai 2 Kickstarter que j'attends vachement, j'ai Outlive et This War of Mine.
Ah putain, ce soir,
on aura 2 à Outlive autour de la table.
Bien sûr, pas que 2, parce que je crois qu'il y a aussi Waz qui t'a pris.
Ah mais Waz, alors on va faire un petit aparté sur Waz quand il nous écoutera, mais ce mec il me fait dépenser un prix fou en Kickstarter, parce qu'à chaque fois je le vois backer et j'ai la notif, je dis putain. Voilà.
Moi j'ai failli faire pareil avec Infected.
J'ai craqué sur Infected, voilà. Ok, on va passer au reste de l'émission, parce que notre vie, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas. Donc, écoute, Christophe, garde la parole. Tu l'avais pas, mais prends-la. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Là, je vais vous parler de jeux un peu jeunesse, mais donc je vais vous parler de Jack et le haricot magique.
Ah.
Voilà. Donc, je vais juste vous le remettre un peu dans le contexte. C'est un jeu qui est de la collection Contes et Jeux de chez Purple Brain. Juste pour le petit rappel, hein, la collection Contes et Jeux, c'est une très belle collection qui est les boîtes. Déjà, l'originalité de la boîte, c'est qu'on dirait des livres de contes, puisqu'effectivement, le principe, c'est d'arriver à faire des jeux sur laquelle il y a une thématique par rapport aux contes de notre enfance. En plus, c'est vrai que la plupart des jeux sont quand même des jeux pour enfants. Pour ce que je vais vous donner quelques titres, enfin même les titres qui vont certainement vous parler. Il y a Aladdin et la lampe merveilleuse, il y a Le joueur de flûte, qui est un jeu mais alors de pourriture bien. Avec les enfants ça marche bien, mais entre adultes alors là ça se pourrit à tout va. Le petit chaperon rouge, La cigale et la fourmi, qui est un jeu un peu de bluff. Le lièvre et la tortue, que je trouve moi génial, c'est un jeu de course qui est très 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 sympa. Baba Yaga, Les trois petits cochons. Donc voilà, cette collection elle a des jeux qui se jouent soit vraiment pour un peu les petits, soit entre adultes. Enfin, il y a toujours une version du jeu pour les enfants et il y a toujours une version un peu on va dire améliorée pour les adultes, avec des règles complémentaires qui permettent de jouer entre adultes selon les types de jeux.
Je crois que le mot que tu cherchais, c'est un petit peu fils de pute.
Non, pas tous. Ben non, justement, non, il y a pas, ils sont pas tous avec pour faire des saloperies. Hein, c'est pas tous le cas.
En plus, les boîtes sont super belles. Voilà, quand t'en as une, t'as envie de toutes les acheter. Une espèce de collection comme une encyclopédie.
Ben ouais, déjà, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait fait une émission avec des interviews sur les illustrateurs. On avait Benoît Forget qui était venu pour l'interview et du coup, il nous parlait de l'importance de l'illustration, en tout cas dans son travail.
Oui, bien
c'est
sûr,
vrai qu'il prend toujours des super illustrateurs. Et voilà, il fait toujours le matos, c'est très très chouette à chaque fois. Il y a un peu de volume. On est en pleine immersion. Et justement, Jacques et l'oreille magique. C'est une version de... Alors oui, juste le dis, c'est qu'en plus, lorsqu'on a le jeu, on a aussi un petit conte. Enfin, en tout cas, le conte est réécrit par Benoît Forget. Donc là, ça sera encore le cas. Et donc, Jack et le haricot magique, l'objectif, c'est de faire pousser le haricot pour l'amener dans les nuages jusqu'au géant pour arriver à ramener des trésors.
Classic shit.
Un bon vieux classique. Alors, comment est-ce qu'on va faire monter ces haricots? C'est avec des dés. Avec des dés en plastique vert. L'objectif, c'est qu'on va les lancer, évidemment, mais on va aussi après devoir les empiler pour faire le haricot. Et on va tous participer au haricot. Et quand on pose les dés, évidemment, alors donc les dés ont plusieurs faces, enfin évidemment, classique. Il y a plusieurs valeurs. Donc il y a les valeurs. On essaye de récupérer la valeur qui est avec le sac d'or. Ça signifie que entre deux dés, on va, en tout cas, au-dessus du dé sac d'or, on va pouvoir mettre un petit, c'est un petit carton.
Pour stabiliser sac d'or, un peu tout ça.
C'est pas pour stabiliser, c'est que c'est notre sac d'or à nous, et que si à la fin, une fois qu'on a fini de poser, la tige ne tombe pas, déjà on va récupérer des cartes, une carte trésor par sac d'or qu'on a réussi à poser. Par contre, si après les joueurs qui suivent font tomber le haricot, et ben du coup vous récupérez tous ceux qui ont un nuage, enfin un sac d'or dans le dans la tige qui est tombée, et ben ils récupèrent encore des cartes, donc enfin, des cartes trésor. Donc ça signifie que l'objectif c'est un finir votre tour en ayant stabilisé votre la tige, mais en faisant que la tige que le suivant lui il va la faire tomber.
D'accord. Bah, en fait, forcément, au fur et à mesure, ça va monter dans les pires pieds.
Ah bah ça peut. Être, bah, disons que ça dépend avec qui tu joues, parce que alors du coup, il y a d'autres trucs qui vont où vous allez rajouter des morceaux d'haricots, c'est des petits tubes, etc. Vous allez, enfin, il y a plein de petites saloperies. Et quand vous jouez avec certains joueurs, et si vous jouez avec Benoît Forget, automatiquement, il vous fait que des crasses. Il est très très fort pour arriver à mettre le truc. Sinon, tu vas pas faire un truc vraiment stable. Et c'est un jeu que moi je me suis éclaté à y jouer. C'est vraiment voilà, quand tu joues avec l'habitude, etc. Manifestement, tu vois très très bien le niveau. Et il y a des saloperies à faire qui c'est vraiment jouissif. Alors il y a la version toute simple, les dés tout simplement. Alors oui, comment est-ce qu'on pose les dés, comment est-ce qu'on jette les dés hein, j'ai oublié de le dire déjà. C'est qu'on a un set de cartes qui va de 1 à 7. Donc déjà c'est l'ordre. On va chacun jouer une carte en même temps et donc c'est déjà l'ordre qui va déterminer dans quel ordre, enfin c'est la valeur de la carte qui détermine dans quel ordre on va la jouer, mais c'est aussi la carte qui va déterminer combien de dés on va devoir lancer. Ça peut être un dé, un ou deux dés, deux ou trois dés, un ou trois dés. Donc vous choisissez quand vous jouez votre carte. Le problème c'est que parfois vous voulez en poser deux, hein, génial, vous êtes super content. Sauf que vous vous êtes pas aperçu, c'est que quelqu'un va jouer avant vous et vos deux dés, vous ne les passez pas au bon moment, quoi. Et finalement, vous pensiez être dans les premiers, et puis non, et c'est une belle saloperie. Donc ça, c'est la carte, on va dire, c'est le jeu de base. Et puis en plus, en version avancée, les cartes ont aussi un pouvoir qui va être positif pour vous ou négatif pour les autres. Et ça ramène encore un peu plus de stratégie parce que vos 7 cartes, vous allez jouer vos 7 cartes, mais il faut déterminer dans quelle ordre vous allez les jouer. Hein.
D'accord. Et en termes de hauteur de tige, on arrive à quoi environ combien de dés de
Je crois que c'est une dizaine, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, ça fait un beau niveau. Hein. Et si vous arrivez à faire tout, à poser tous les dés, là vous pouvez mettre le château du géant. Et si vous avez posé le château des géants, là, vous récupérez encore du pognon. Donc, c'est ça. Mais bon, entre nous, moi, pour l'instant, pour les parties que j'ai vues, le château, je ne l'ai jamais vu. Hein.
Ah ouais?
Enfin, bon, voilà. Bon. Moi, j'ai joué avec des enfoirés. Donc, d'office, déjà, quand tu arrives à finir ton tour, tu étais content.
D'accord. T'as testé, toi, Yarmino?
Non, je l'ai vu jouer. J'ai vu en vidéo et je l'ai vu en réel. Et ça a l'air d'être assez fun. Un petit peu de dextérité, un petit peu de la Jenga, je crois comme ça, et puis un petit peu, ouais, petite tactique qui tient là. Alors, je vais décider de faire je sais que je vais perdre, donc je mets un dé pourri, histoire de vraiment faire chier celui qui suit.
Ah oui, parce qu'effectivement, quand tu as un décompte de points aussi, tu te dis, genre, on a fait de perdre ici, quoi.
Exactement.
D'accord. Ketrus, ça te branche?
Ouais, carrément, ouais. Parce qu'ils en ont beaucoup parlé aux fiches, en fait, puis j'ai vu les photos, ça a l'air bien drôle.
J'aime bien ce côté un peu, ouais, effectivement, Jenga pourriture. finalement.
Ouais. Et puis comme tu dis, c'est vraiment, c'est, tu peux jouer avec des enfants et tu peux jouer contre adultes et là c'est plus le même jeu quoi. Mmh. Tu balances dans la gueule.
Si vous voulez me voir chouiner, bah il y a une vidéo qui passe sur Facebook. Faite par Benoît Forget, qui a diffusé.
Le salaud.
Voilà, où je joue juste après lui, évidemment. Voilà, c'est, mais ouais, le jeu a beaucoup tourné en festival. Il sort en fin juin.
D'accord.
Et il sera en avant-première à Paris Ludique.
Donc, je pense
qu'on pourra l'acheter. Et en plus, il est pas. Enfin, franchement, par rapport à la qualité du matos, il n'est pas cher. Il est à 22,50 €. Je n'ai pas dit le nom de l'auteur. Dites donc, le jeu est de Frédéric Morard. Et en plus, illustrations, comme d'habitude, de belles illustrations. Donc là, ils sont deux illustrateurs. Il y a Nayad et Pierrot. Donc, Pierrot,
il y a Pierre,
Hein. Oui, voilà. Ça va, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout des mecs qui ont vachement bossé avec Purple Brain et qu'on connaît. Quoi.
Et la boîte, encore, est vraiment très, très chouette à voir. Quoi.
Mais ils en sont à combien de ce type de jeu-là? J'ai l'impression d'en voir une quinzaine maintenant, mais j'exagère. Mais...
Non, je dirais moins.
Non, c'est, je crois que c'est... Alors, il ne met plus les numéros. Alors, faut pas lui en parler, pareil. Mais il met plus les numéros et bah écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le 8e de la collection. Oui, après, c'est vrai que maintenant, il a aussi lancé une autre collection qui est plutôt basée sur, sur la littérature 19e. Le premier, c'était le tour du monde en 80 jours. Et là, il y a, bah, y a un Catala, je ne sais plus quel est l'autre. Je pense que c'est pas le Mont Blanc, je ne sais plus. Enfin, je veux dire, il y a encore un nouveau jeu qui va sortir là bientôt dans cette grosse collection.
Donc, toujours
là,
c'est pareil. Dans la collection.
C'est pas compté jeu. C'est un autre nom de collection. Et là, par contre, c'est comme si tu voyais des gros romans, justement, au 19e, Jules Verne, etc. Quoi.
Les gros Jules Verne illustrés.
Le prochain, c'est Oliver Twist. Voilà.
L'idée quand même, enfin, on revient au conditionnement, mais l'idée de conditionnement quand même, de ce type de jeu en version bouquin, boîte, c'est super. Moi, je suis à chaque fois je les vois dans les tours du magasin, t'as envie de les prendre.
T'as envie de tous les avoir, et puis ça rend bien, quoi. Puis ça se range facilement.
Puis c'est joli, quoi. Il y a un côté côté graphique super intéressant,
tu vois juste le truc que je reprocherais et entre guillemets pas tant que ça, c'est que justement quand tu vois les boîtes, ça fait enfantin. Parce que moi, par exemple, je voulais en offrir un, genre le Lièvre et la Tortue, tu vois, un pré-ado ou ado, 12-13 ans, et j'ai hésité, quoi, parce que c'est compliqué, tu vois, si tu lui offres ça, il va te regarder, il va faire « Ok, alors que tu lui offres Star Realms, ça marche tout de suite, quoi ». Mais bon, en même temps, c'est aussi destination d'un public jeune, quoi.
Mais officiellement, c'est des livres jeunesse, c'est des jeux jeunesse.
Ouais, mais en fait, ça fait enfant parce que ça reste des contes, en fait. Sur ça, en fait, la justification, pour moi, elle est là, quoi.
Ouais, les illustrations aussi. Enfin, bon, c'est pas un vrai reproche.
C'est un faux reproche.
Pardon, monsieur Forget.
Ok, je vais revendre parce que j'ai complètement oublié le concours, du coup, j'en parlais. Mais moi, j'ai pas balancé mes mots et tu vas les balancer tout de suite et on fera un rappel en fin d'émission. Je vais commencer par les miens. Donc, je balance tout de suite Vaisseau 3. Ça veut dire donc que dans la grille que vous êtes en train de regarder au moment où vous écoutez ma voix, vous avez trois jeux qui sont en rapport avec des vaisseaux et que vous pouvez les mettre sur votre petit papier pour nous l'envoyer. Gomelon, tu peux dire tes suivants.
Et mon prénom est Christophe.
Je me serais gouré une fois dans cette émission, ça va, c'est pas la mort. Tu as enlevé ton papier, là, je le vois plus, donc j'ai plus ton nom.
Tu sais, c'est comme les enfants dans les TGV, il faudra lui mettre un
petit truc.
J'ai fait me faire un t-shirt.
Donc vas-y, balance ton indice.
Donc, Dune en 4.
Voilà. On va passer à la chronique suivante. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent de merde. Enfin, c'est pas un accent de merde, c'est un accent. Vas-y, Ariam Elo, qu'est-ce que tu nous présentes? Je suis fatigué, je suis désolé.
Je vous présente Dragon Keeper The Dungeon.
On reste dans les jeux d'enfoirés. Hein. Vas-y.
C'est un jeu de société édité par Yellow Peli qui vient juste de sortir pour de 2 à 4 joueurs. Le principe, c'est on est des anciens aventuriers et on a décidé maintenant de se mettre du côté du dragon.
Mec, on en a marre de prendre la gueule.
Bah ouais, le dragon va nous engager dans son donjon et puis on va protéger le donjon d'attaques d'autres aventuriers.
D'accord.
Ça, c'est le pitch.
Sympa.
Ça me rappelle un jeu vidéo.
Alors, au départ, c'était pas l'idée. Au départ, ils partaient sur l'idée de dinosaures, mais ils sont tombés sur des dragons et ça les a fait bien rigoler.
Parce qu'il y avait quand même Dungeon Keeper où t'étais le maître d'un donjon et tu devais les protéger contre les aventuriers.
Ouais,
le thème est le même.
C'était pas exactement. Tu devais pas le protéger. Tu devais faire un donjon pour attirer les aventuriers pour les tuer.
Oui, c'est vrai.
C'était pas exactement ça. Mais pour le coup, c'est vrai que ça reste proche. Hein.
Donc, le jeu se présente sous forme de 3 plateaux qui vont s'empiler. et qui représente les trois niveaux de ce donjon.
Alors, tu veux dire comme les gens faisaient à HeroQuest quand ils avaient racheté trois jeux?
Je n'ai pas joué à HeroQuest, j'étais pas suffisamment...
Est-ce qu'on peut changer de chroniqueur, s'il vous plaît?
Non, je peux en dire. J'ai toujours rêvé d'y jouer et j'ai jamais eu l'occasion. Donc, c'est trois plateaux qui vont s'empiler et dedans, il va y avoir 25 tuiles qui représentent 25 aventuriers. On va récupérer petit à petit cette tuile. Le principe, c'est à ton tour, tu récupères une tuile horizontalement que tu gardes et une verticalement que tu donnes à ton voisin de droite.
Alors, quand tu dis horizontalement, c'est-à-dire que tu déplaces...
Le dragon est mis au milieu au départ de la première manche. Tu as déplacé ton dragon horizontalement sur une ligne.
D'accord. Tu le poses, tu récupères la tuile.
La tuile. Et tu vas après déplacer verticalement, donc toujours sur le même plateau. Et la tuile, tu vas la donner à ton voisin. Donc toi, tu vas essayer de récupérer les tuiles qui ont les plus fortes valeurs et donner à ton voisin des tuiles qui ont peut-être des faibles valeurs, mais peut-être des fortes valeurs, pensant que ça a peut-être le...
Bon, les valeurs, tu les vois pas sur les tuiles?
Tu les vois. Il y a 5 couleurs, elles vont de 1 à 6. Tu les vois. Le principe, c'est qu'à la fin de la partie, ta pile la plus haute, par exemple, tes rouges sont très hauts, ils vont pas compter, tu vas les donner en tribut au dragon. Donc tu vas faire en sorte que ton voisin ait le même problème.
D'accord.
Et au départ, tu étais d'origine d'une guilde d'aventuriers. Donc tu vas essayer d'éviter de récupérer des tuiles de ta guilde. Par exemple, la tuile des guerriers, t'étais les bleus. D'accord. Tu vas essayer d'éviter les tuiles bleues parce qu'elles te compteront en point négatif.
Oui, Christophe.
Ouais, et ce sont les tuiles qui... Enfin, les gens ne savent pas quelle est ton...
Ah oui, d'origine, tu la gardes cachée. D'accord. Ce qui rend le jeu de plus en plus difficile, là, pour le coup.
Non, parce que tu vas rapidement le voir si dans un mouvement, il y a 4-5 rouges... Et qu'il les prend pas, bah oui, il doit être de la guilde rouge. Hein, parce d'accord. qu'il a pris un pauvre bleu vert.
D'accord, il effectivement, a pris un bleu vert. Ah, parce qu'il y a des trucs qui sont biclassés, j'imagine.
Non, mais il a pris une pauvre tuile verte ou un pauvre tuile bleue.
Ah, d'accord, qu'est-ce qu'il a pris un 1 au lieu d'un 5.
Oui,
sauf s'il bluffe.
Il y a toute une notion de bluff, toute une notion. Aussi, si on finit trop tôt le premier plateau, parce qu'on a laissé un petit peu trop d'aventuriers, le dragon n'est pas content, il nous demande des pièces d'or. Si on n'a plus de pièces d'or, il nous bouffe.
Sympa, sympa. Donc en fait, tu peux arriver à la fin. Tu m'as dit qu'il y avait 3 plateaux, c'est un jeu à combien ?
2 à 4 joueurs, il y a 3 niveaux. Une petite demi-heure, c'est fait. Et il se peut que, pour l'instant, moi, j'ai vu une fois une élimination et c'est sur la dizaine de parties, et c'était moi par hasard.
D'accord.
Et c'était au dernier niveau, juste au moment où on comptait les points.
Ah. D'accord. Comment on passe d'un niveau à l'autre ?
Quand le dragon ne peut plus avancer sur la ligne où il est, on passe au niveau d'après.
D'accord, donc on a fait un mouvement horizontal, mais après on ne peut plus faire vertical. On reste bloqué. Mm. D'accord. On a dit les illustrateurs et auteurs ? Alors,
l'auteur, c'est Étienne Dagneau.
D'accord.
Illustré par Ismaël et Boris Moncel.
D'accord. Et c'est édité chez ?
Chez Illopédie. Moins de 30. C'est surtout un éditeur de jeux pour enfants. Il crée des jeux pour jouer avec ses enfants. Sauf que maintenant, ses enfants gagnent en âge. Donc, ils commencent des jeux d'un peu plus haut niveau.
D'accord. Ils ont fait beaucoup de trucs ou
En jeux pour enfants, ils ont une quinzaine de petites boîtes. Au moins une quinzaine. En jeu de cette âge, c'est leur premier. Là, ils l'ont passé pour Kickstarter pour être sûr d'être financé. Parce que là, ça demande un peu plus de matériel. Avant, ils faisaient des jeux à 10-15 euros. Là, on passe à 30 euros. Lui, c'est pas du tout son métier. Il fait vraiment ça pour le fun, pour au départ amuser ses enfants. Et donc, c'est vraiment un truc vraiment pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Et il commence à avoir une petite renommée. Moi, là, ce jeu, j'étais très emballé quand je l'ai découvert. On en a fait quand même quelques parties. Et...
Ça reste une belle initiative, quand même, la création de jeu, juste parce qu'on a envie d'amuser ses gosses. Pour le coup, Christophe, t'en as pensé quoi, toi ?
Ah, moi, j'adore. C'est vraiment très, très sympa.
Qui en doutait autour de cette table ?
Non, mais parce qu'en plus, c'est vrai que tu peux faire un peu bluff. Hein. On a fait une partie il n'y a pas très longtemps, sur laquelle je les ai tous bluffés à mort. Ils ont totalement cru. Hein, voilà. Mais non. Puis c'est vrai que c'est vraiment marrant de voir ce plateau en 3 niveaux. C'est vrai que c'est déjà, ça attire l'œil.
Hein, ouais, visuellement, ça donne un autre niveau, effectivement, sans jeu de mots. Catus ?
Ouais, je vais dire la même chose que Christophe, en fait.
D'accord.
T'as vu, j'ai pas dit comme nom. Déjà, moi, j'étais impressionné, ouais, par le plateau. Enfin, impressionné, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais je veux dire, c'est hyper bien pensé et c'est joli. Et tu sais, c'est comme un objet, comme certains jeux, t'as tout de suite envie d'y jouer, en fait, parce que ça t'intrigue. Et derrière, t'as pas du tout un jeu mignon, mais t'as plutôt un jeu d'enfoiré, ouais, où t'as plein de façons de pourrir l'adversaire, de gagner. T'as plusieurs stratégies, en fait, c'est vraiment intéressant. T'as la stratégie de faire croire à l'autre que t'as une couleur, ce qu'a fait Christophe, en fait. On était sûr qu'il avait une couleur et qu'il voulait s'éliminer et pas avoir les points négatifs et juste grappiller quelques points. Mais pas du tout, donc il nous a bien eu là-dessus. Tu peux aussi essayer de faire une espèce d'attrition au niveau des pièces d'or, c'est-à-dire que d'essayer de finir très vite un tour, parce que tu vois que l'autre t'as pas beaucoup de pièces d'or, et du coup, comme il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'aventuriers qui va rester, le dragon va te demander beaucoup de pièces d'or, et si t'as pas assez de pièces d'or, bah, la personne est morte, donc t'élimines un adversaire, etc. etc.
J'ai hésité tout à l'heure, vraiment hésité à te le faire.
Mais alors, cette notion de pièces d'or, c'est quoi? C'est qui perd des pièces d'or?
C'est chaque joueur, en fait. Tu commences avec 3 pièces d'or. Tu gagnes une pièce d'or si tu donnes une tuile, à un moment où tu donnes la tuile à ton voisin de droite, si elle est de 3 ou plus, tu gagnes une pièce d'or. En fait, quand tu finis un niveau, tu comptes le nombre d'aventuriers qui restent. Et en fonction du seuil, donc je crois que c'est 1 à 4.
1, 5, 6, 8 et 9 plus 1.
Après 2 pièces d'or, 3 pièces d'or. Et celui qui a fini le tour perd une pièce d'or en plus.
D'accord, effectivement. Donc ça reste. Oui, donc il faut faire attention à qui tu vas donner la main. Enfin, comment tu vas donner la main surtout.
En fait. Ouais. Est-ce qu'il faut donner une grosse? Parce que tu es un petit peu court ou truc comme ça, mais grosse, ça va peut-être lui marquer beaucoup de points.
Ouais, d'accord. En fait, on est sur un semi-jeu de position point, quoi. C'est un peu sympa.
Ouais, c'est ça. Et puis avec une gestion des piles qui est assez intéressante, parce qu'effectivement, tu sais pertinemment que ta pile la plus haute va rien te rapporter. Donc c'est là où il faut que tu fasses gaffe à toujours essayer d'équilibrer tes différentes couleurs. Tout en évitant de prendre des points négatifs par rapport à ta couleur à toi, et en essayant d'équilibrer tes autres couleurs en faisant des piles de bonne taille, enfin de taille à peu près identique, avec des valeurs pas trop faibles dedans.
Oui, évidemment, oui, parce que faire une grosse pile de mauvaise couleur pour la dégager à la fin, ça sert à rien. Ok, alors on est sur quel ordre de tarif pour ce jeu?
Maximum 30€, beaucoup de boutique sur le net aux alentours de 25-27€.
D'accord, ok. Et c'est déjà dispo?
Depuis le début mars.
Hein. D'accord, donc il a kickstarté et ensuite
on l'a reçu nous fin février et 15 jours après le donner aux boutiques.
D'accord, sympa. Sympa comme tout, comme principal, ça me donne bien envie d'y jouer en tout cas. Je sais pas si vous kiffez déjà, mais je vous ai vu jouer tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de tester, mais ça avait l'air bien cool. Ok, merci Riamello.
Alors je dirais énigme. 4.
Voilà. il m'a pris de court, c'est gênant. Donc répète-le pour le
énigme 4.
Énigme 4. Ok, donc ça c'était pour le concours, hein, pour au cas où les auditeurs n'auraient pas compris, mais je les crois intelligents. Ketrus va nous parler de combat, d'épée, de GN. Pas vraiment de GN en fait.
Bah justement, c'est un peu la question. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu raconter ma vie.
On va partir
un peu sur un GN, on va dire, que je fais depuis plusieurs années en Italie, dont je vous ai beaucoup parlé. Puis de l'expérience que j'ai faite il y a un peu plus d'un mois au château de Serran pour la guerre des baronnies. Puis après, on va essayer de développer, puis on va voir est-ce que c'est un GN, est-ce que ce sont des GN, quel est leur intérêt, est-ce qu'ils ont leur place parmi les autres GN, est-ce que... l'aristocratie des GN ne les juge pas trop durement.
Ah voilà, à mon avis, c'est mort. Avec les GN nordiques et le reste, on est déjà
hors contrôle. C'est intéressant parce que je pense que les GN combattent aussi leur place dans les GN. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire.
Vas-y.
Alors, ça a débuté il y a assez longtemps. Moi, j'étais tout petit, donc il y a à peu près 30 ans. Et il y a deux familles dans un petit village en Italie, dans les Marches, région centrale de l'Italie. Très belle, région truffière, magnifique. Deux familles dans un petit village de Cocoré. Alors en haut du village, il y avait les Pilarts et en bas, il y avait les Sbaffi. Il y avait deux frères Pilarts et quatre frères Sbaffi. Et qu'est-ce que tu fais quand t'es jeune et que l'été, tu t'emmerdes?
Tu te tapes sur la gueule.
Tu te tapes sur la gueule. Avec quoi?
Avec des bâtons.
Avec des bâtons. Donc ils ont commencé comme ça, à la guerre des boutons, à soudre sur la gueule. Ils sont amis, hein, mais...
Alors attends, tu précises que c'est une histoire vraie. Hein.
C'est une histoire vraie. Vous pouvez vérifier. Bah non, pas tant que ça en fait. mais si, si vous pouvez, on pourra vérifier. Et donc au fur et à mesure, après ils ont invité des amis. Donc les Sbaffi, c'est des Italiens, donc ils invitaient leurs amis italiens. Et puis les Pilarts, ils sont allemands, anglais, français, italiens. Mais ils vivaient à Paris et donc ils invitaient leurs amis français. Et ils ont commencé à être une petite vingtaine, à commencer à se foutre sur la gueule. Au début toujours avec des bâtons en bois, puis après avec des vraies portes, puis après. avec un perfecto en cuir pour se protéger et un casque de moto, et ça continuait. Et puis en allant, c'est devenu de plus en plus gros parce qu'ils invitaient de plus en plus de potes. C'est une vraie histoire, hein. Et puis au fur et à mesure, donc il y a à peu près, je crois, 28 ans si je ne m'abuse, je crois que c'est la 28e ou Cocon cette année, donc ça s'appelle la Cocon parce que ça se passe à Cocorée. Et ils ont monté ça en association et ça commençait à devenir sérieux. Donc c'est pas un GN classique comme on a l'habitude de voir. C'est tu vas te réunir donc dans la vallée des Coupalets, tout en bas de la vallée, où il fait très chaud la journée, 35-40 degrés, c'est l'Italie, et il fait très froid le soir jusqu'à 2 degrés voire plus bas.
Ah ouais.
Et tu vas commencer à camper comme on peut le voir dans les GN classiques et commencer à former les armées. Donc en élisant des généraux, en élisant des capitaines de compagnie, etc. Alors c'est d'espèce de low fantasy pseudo-historique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de période. Voilà, donc tu peux avoir les Vikings, tu peux avoir les Celtes, tu peux avoir les Romains, etc., des Grecs. Puis de temps en temps, tu peux avoir une petite compagnie d'elfes, parce que c'est drôle. Mais bref, c'est quelque chose qui se fait dans la bonne humeur et surtout dans l'idée de se foutre sur la gueule, mais de façon virile, mais respectueuse et fair play. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux journées de combat. Alors maintenant, il y en a deux. Avant, c'était un peu moins. Tu te lèves très tôt le matin, genre à 6h du matin. À certaines années, tu fais une heure de marche. Ouais, avec le matériel, avec les armes, tout ça. À travers les espèces de petits bois truffiers, tout ça. Très mignon. Et là, complètement crevé après une heure de marche, tu arrives tout en haut dans ce qu'on appelle le Miezola, qui est la montagne là-bas. Et là, t'as un paysage hallucinant. Tu vois un peu à la Gladiator ou genre de truc. Et là, les armées se mettent en place. Et là, tu te fous sur la gueule. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je suis arrivé en haut. Ils m'ont dit, bah, tu verras, tu te mets en ligne. Et puis d'un seul coup, on va dire qu'il va y avoir la charge. Carica en italien. Et c'est parti. Et moi, j'étais là, je fais, ok, on y va. Et là, la charge. Et là, une émotion hallucinante, l'adrénaline qui arrive. Mais tout le monde est habillé, donc costumé. Et tout le monde qui se fout sur la gueule. La charge dure 2 secondes, je meurs, je ne comprends rien. Mais je suis éclaté, j'adore ça, c'est formidable, j'en reveux. Deuxième charge, paf, je me fais encore défoncer. Troisième, tu commences à comprendre. Et puis là, la vraie histoire commence, quoi.
Mais t'attends... Il n'y a pas de mort?
Ah si, en fait, les batailles se finissent quand tout le monde est mort d'un côté.
Non, mais vraiment, hein, vraiment. Enfin, je rappelle, vous battez avec des bâtons.
Je vais expliquer les armes, mais en fait, donc le principe, c'est que sur 2 jours, il va y avoir des combats, que ce soit en plaine, en forêt, en route, dans des fortins qu'on a construits nous-mêmes, d'ailleurs. Il y a même une année, on a été à la tronçonneuse découper des arbres morts et monter tout ça. Ouais. C'est vraiment à la route, quoi. C'est un événement hyper particulier. Mais j'avais envie d'en parler. Je pense que c'était dans la chronique où je pouvais en parler un petit peu. Donc chacun, voilà, les armées se battent. Le perdant s'en va et va choisir un autre endroit où se battre, etc., etc. Et pendant 2 jours comme ça. Avec, au milieu, le soir, une bataille de nuit. Dans le noir complet, pas avec les mêmes règles. C'est-à-dire que tu as une petite dague blanche et tu ne peux te battre qu'à la dague. Et voilà, quoi. Très peu de roleplay.
Oui, ça, on avait un peu.
Il y en a un petit peu. Il y a quelques années où on a fait des grosses fêtes dans le camp, qu'on appelait les fêtes orques, où chacun apportait une spécialité, faisait quelque chose. Les Français, nous, une fois, on a fait 200-300 crêpes en échange de quelque chose à boire d'italien.
Je crois qu'il y a eu un truc. Mais attends,
je finis. Et donc, voilà, c'est pas un vrai GN, mais en même temps, c'est un GN parce qu'on est costumé, parce qu'on incarne des compagnies, parce qu'il y a quand même des personnages, parce qu'il y a quand même une mythologie de la vallée et des héros de la vallée qui sont mis. Qui s'est construite au fur et à mesure des années. Mais il n'y a pas vraiment de scénario. On est là juste pour se battre.
D'accord. Mais oui, Christophe.
Mais du coup, il y a combien de charges dans la journée?
Eh ben ça dépend. Il y a des années où on a fait en 2 jours, laisse-moi réfléchir, entre 35 et 40 batailles. Ça, c'est les grosses années. C'est les grosses années.
Oui, non, mais attends, tu m'aurais dit 20 déjà, c'était énorme.
Non, c'était c'est comme ça. Après, ça dépend. En fait, on arrête quand les gens sont fatigués ou quand le temps n'est plus là. Et voilà. Et donc, pour revenir sur les armes, alors.
Ah non, t'éloignes pas trop de la charge et du nombre de bastons que tu fais dans la journée. Je prends un Maidbourg classique comme Kando ou comme Conan. Tu fais combien de bastons dans la journée? 3. Alors, si c'est 4, c'est énorme.
Moi, justement, je t'en parle. On va en parler de ça parce que moi, je suis pas fan des bastons dans les GN classiques, dans les Medfan classiques, parce que pour moi, c'est plus une chorégraphie ou plus une pantomime de combat. Et du coup, et parce que j'avais derrière mes 10 ans de Cocoon, oui, et que j'avais du mal à m'adapter. Donc ça, on en parlera après. Mais oui, peut-être que dans les GN classiques, tu fais pas ça, mais parce que c'est pas dédié à ça. Mais donc juste pour finir sur la Cocoon, c'est un événement très particulier, un peu à la guerre des boutons, qui s'est formé tout seul, qui est pas dans les espèces des canons du GN avec des armes en latex. Nous, c'est des armes avec une âme en bois, renforcée, mais protégée par de la mousse, etc.
Donc et puis, tout autour de la lame, entre guillemets, t'as de la mousse, d'accord, hein. La mousse de tapis de sol, pardon.
Tapis de sol, ou tu sais, les trucs d'isolation de plomberie, ce genre de choses.
Oui, non, un truc assez simple.
Quoi, c'est bricolage, donc il y a un peu de tout, quoi.
Ok.
Bouclier en bois, mais protégé, molletonné autour. Et on n'a pas le droit au coup de taille, on a le droit qu'au coup d'estoc.
Ah, c'est là où c'est ultra choquant, en fait.
Ouais, enfin, c'est choquant. Mais ça, c'est un débat, c'est un autre débat qu'on a eu avec les gens qui connaissent un peu les deux styles de combat. Alors, t'as le droit au combat au corps. Voilà,
on va rappeler, en fait, le côté estoc et taille. Pourquoi c'est choquant, en fait?
Parce que c'est dangereux, en fait.
Oui. Enfin, en GN, on considère ça ultra dangereux, les
stocks. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi. Quand on frappe d'estoc en GN, c'est dangereux, ou même dans les combats.
Donc c'est frappé d'avant, avec la pointe de l'arme.
Pour transpercer, et la taille, c'est donc pour tailler, c'est des mouvements latéraux.
Voilà, de gauche à droite.
Voilà, ou en oblique. Alors pourquoi c'est dangereux? Il y a plusieurs raisons. Il y a déjà que les armes de GN en latex ne sont pas du tout faites pour l'estoc, parce que à l'intérieur, c'est la fibre de verre, si je ne me trompe pas.
Fibre de fer.
Ouais. Voilà, bambou, fibre de verre, et que si la pointe casse, si le latex n'est plus là pour protéger, ça peut donc transpercer,
peut planter quelqu'un.
Hein. Mais surtout que la fibre de verre, ça éclate. Donc c'est très très dangereux. Nous, en bois, ça éclate pas. Le problème des coups d'estoc.
J'allais dire, il y a autre chose qui éclate dans le bois, oui.
Ça. Non, mais il n'y a pas tant de bobos que ça. Mais le problème de coups d'estoc, c'est que souvent, le coup d'estoc, tu ne vas pas faire attention. Il peut glisser sur le bouclier, arriver dans l'œil. Il peut arriver dans les parties génitales. Il peut casser une côte, il peut ce genre de truc. Et parce que aussi, quand tu donnes un coup d'estoc, la puissance que tu vas donner au coup va être concentrée sur un point plus petit que si tu frappes de taille qui va être réparti sur la lame, etc. Je le rappelle, la Cocoon, c'est quelque chose de très particulier. Mais pourquoi je raconte ça? Parce que, en fait, j'arrête d'aller en Italie à la Cocoon pour des divergences de règles et d'organisation. C'est autre chose. Et moi, entre-temps, j'ai fait d'autres GN comme Conan, comme Kando, ce genre de trucs. Et j'avais envie, donc avec mes amis qui ont fait ça depuis des années, eux, beaucoup plus longtemps, il y en a, ça fait 25 ans qu'ils font ça. J'avais envie de leur proposer de faire un GN, déjà pour leur montrer déjà du roleplay, tu vois, et puis pour leur montrer un peu le combat GN et ce genre de choses. Et, bon, c'est mal tombé pour le roleplay, mais on est tombé sur la guerre des baronnies, qui est en fait un opus des chroniques de Mortras, qui sont des GN classiques. Alors d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est par l'association Tamfreeze, et que les chroniques de Mortras, les premiers opus, ils ne l'ont fait jouer qu'à des novices en termes de GN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Apparemment, les novices ont fait n'importe quoi dans le scénario. Ils ont un peu déconné et du coup, ça a déclenché une grosse guerre. Et ils se sont dit, plutôt que de le faire jouer par un wargame ou de façon scénaristique ou écrire par un scénariste, ils se sont dit, on va le faire jouer. Et donc, ils se sont dit, on va faire un GN combat. Pas avec les novices du GN, je vous rassure. Donc, ils ont fait un appel. Nous, on a vu ça et on s'est dit, allons-y, quoi. On va tester. C'est pas loin. On n'a pas à se taper 16 heures de route pour aller en Italie.
Jusqu'en Italie, ouais, ce que j'ai dit.
C'était pas cher, 40 euros les deux jours avec trois repas compris. Et on y est allé, quoi. Et donc, c'était au château de Serran, donc au même endroit que Condoria.
C'est un beau site, hein, par ailleurs.
Ouais, et là, donc, c'était pareil. C'était un GN combat, orienté que combat, mais par contre avec une scénarisation due aux autres, enfin aux chroniques de Mortras, leur GN classique, entre guillemets. Et là, on était une cinquantaine, et c'était donc full armure, c'est-à-dire tout le monde est obligé de porter un casque, les coups à la tête sont autorisés, les coups partout sont autorisés, sauf dans les parties génitales, les charges sont autorisées, et on a le droit de taper avec le bouclier s'il est en latex. Donc là, c'est pareil, c'était un GN purement combat, hyper physique, parce que c'est assez fatigant. Pendant deux jours, on a fait ça. On a fait moins de batailles qu'à la Cocoon. C'était un peu plus relâche. C'était levé, c'est qu'au début des combats à 10h, et puis on arrêtait à la tombée de la nuit.
Ouais, mais ça reste avec des armes de gêne, donc plus ça reste facilement maniable, plus agréable. Voilà.
Et moi, je m'attendais à quelque chose d'assez violent, parce que, en fait, quand on m'a dit coup à la tête, que j'avais pas l'habitude, j'ai eu peur. Pourtant, je fais des arts martiaux, je fais des sports de combat, c'est pas le genre de truc qui me fait peur, mais je me dis, sur un GN, ça peut être. En fait, c'est toujours le truc dont on a peur. Dans les GN classiques, on se dit, on va se prendre un coup à la tête, ça fait mal. Et
En fait, je pense que le problème du coup à la tête en GN, c'est que comme c'est interdit, on a l'impression que ça va être super dangereux parce qu'on l'a interdit.
Oui, c'est ça.
Alors que bon, on en prend régulièrement, c'est pas dangereux. Maintenant, genre, on a des potes qui en ont pris assez sévère, qui ont perdu l'équilibre tout de suite après.
Moi, j'en ai pris un par un gamin de 12 ans. J'étais assommé, je me suis tombé. Ça peut être hyper dangereux. Quand c'est en mouvement, il était en course, le petit marmot, il a eu peur. Voilà.
Alors, et c'est ça. Et surtout, en GN classique aussi, les coups que tu vas prendre à la tête, souvent, c'est pas forcément des coups volontaires à la tête. Ça veut dire que ça va être des coups que tu vas vouloir mettre dans le bouclier, dans l'épaule. Quelque part il rip et tu te le prends dans la tête et c'est pas agréable, des fois c'est trop fort, des fois c'est mal porté, etc. Là moi j'ai rencontré que des joueurs fair play, pourtant il y avait des belles masses, hein. Il y a des mecs de 2m10 hyper impressionnants, assez musclés tout ça, et j'ai pas eu mal une fois quoi. J'ai vraiment l'appréhension que tu peux avoir sur les trucs de combat comme ça. Je l'avais aussi, hein. Pourtant j'avais fait des choses. Il y a plein de potes qui sont pas venus, on devait partir à 10, on n'y était qu'à 2, parce que la plupart avaient peur en fait des coups à la tête.
Ouais, non,
ils se sont dit ça va être trop violent. Bon, on était bien équipés et ça s'est super bien passé. Il y avait toute une scénarisation, donc les deux armées, des répercussions qu'il va y avoir sur les prochains GN des Chroniques de Mortras, et surtout ils avaient plein de modes de jeu, et ça c'était super quoi. Il y avait l'escorte de convoi, il y avait la prise de fortin, garder une relique, ça veut dire qu'il faut au moins être 5 personnes, 5 gardiens autour de la relique pendant 30 secondes, sinon tu gagnes le point, sinon tu meurs, faut que t'ailles respawn, etc. Enfin, plein de choses
extraordinaires. Mais est-ce que en fait... En termes de jeu, là tu parles finalement d'un vrai GN, hein, on est d'accord, hein, sur le fond, même si c'est un GN combat.
Bah, c'est un vrai GN parce qu'il s'inclut, c'est un vrai GN.
Il y a du roleplay, il y a un personnage.
Il y a un peu de roleplay, c'est pas beaucoup de roleplay.
D'accord.
C'est quand même, c'est là où tu te rends compte que t'es dans autre chose que du GN classique, parce que souvent tu vas te friter et puis entre les batailles tu te parles. Parce que déjà c'est quelque chose de, mais pas forcément en roleplay je veux dire, parce que déjà c'est physique, t'es dans un espèce de sport, donc c'est vrai que c'est pas facile de garder le roleplay tout le temps, mais on l'a fait quoi. Mm-hmm. Le soir c'était roleplay, on a eu quelques petites instances assez marrantes, d'ailleurs dans la plaine, aller capturer des brigands, genre de trucs, mais ça c'était plus pour animer, c'était pas le but premier du GN quoi. Mais oui, il y a moins de roleplay que dans les GN.
T'as pas de personnage, t'as pas de nom de personnage, si t'as un truc comme
ça. T'as pas de personnage, c'est à toi de le faire tout seul. D'accord, si tu veux te faire un personnage, tu te le fais. D'ailleurs,
mais t'es pas obligé d'en faire.
Non.
D'accord. Yamelo, t'as une question ?
Oui, ça me fait penser au paintball scénarisé.
Oui, ce que j'allais dire en fait. J'ai parlé d'airsoft, mais c'est exactement la même chose. Ouais.
Exactement. Et c'est intéressant parce que, d'ailleurs, le paintball et l'airsoft sont dans la FEDGN, si je me trompe.
Oui, oui, tout à fait.
Malheureusement,
c'est ça,
oui.
Et en même temps, tu vois, c'est un peu le même objectif qu'on va chercher dans ces GN-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on va chercher des affrontements physiques, on va chercher des batailles, mais en même temps, on le fait costumé, on le fait dans une époque. On le fait, tu vois...
En fait, je vais pas rentrer dans ce débat-là. C'est un peu, enfin, si je vais y rentrer volontairement.
Bah, c'est fait pour.
C'est fait pour. Mais en fait, pour parler d'airsoft, ce bon j'en pratique... La première fois que j'ai fait de l'airsoft, je suis allé en jean noir, puis de veste vite fait pour dire que. Mais en fait, tu te rends compte que tu te costumes. Enfin, pour ma part en tout cas, et pour les gens avec qui je suis allé, mon frère en l'occurrence, c'est qu'on y va costumé parce qu'on se rend compte que pour jouer, c'est mieux. Parce que, bah oui, quand tu essaies de te camoufler et que tu es en jean noir, mine de rien, ça sert à rien, on te voit à travers le feuillage. Alors. Donc, tu commences à prendre un pantalon, puis une veste de camouflage parce que tu as envie de te camoufler un peu plus longtemps, puis tu vas prendre. Un chapeau pour te couvrir un peu plus, tu vas prendre des gants pour te protéger, puis pour être un peu plus complet. Donc, c'est ça qui amène le truc. Il n'y a pas de jeu derrière en tant que roleplay, en fait.
C'est vrai que la comparaison s'arrête là, parce qu'en fait, quand tu parles de ces GN, et par exemple, Invasion in the Berry, qui était avant Berry Champ de Bataille, ils ont changé de nom.
Ah, tiens.
Ils sont à peu près 400, si je m'abuse.
Ils sont très très nombreux. Sur les canals historiques, ils faisaient des batailles jusqu'à 500-600, je crois.
Il y a un peu moins dans le canal historique. Cette année, ils étaient que 50. Ils ont fait ça en mars, je crois, et c'était en pleine neige, tout ça. Alors justement, je vais parler d'Invasion in the Berry, parce que c'est intéressant. Donc, il y a la campagne Invasion in the Berry qui se passe le dernier week-end de août. Je pourrais pas y aller, je serai à Conan. Et là, par contre, c'est du combat GN classique. C'est-à-dire que t'as pas le droit de charger bouclier, t'as pas le droit les coups à la tête, etc. etc. Par contre, c'est ce qu'ils appellent un Wargame GN. C'est marrant, parce que tout le monde fait la différence avec les GN, entre guillemets, classiques. Je parle même pas des nordiques. Et là, par contre, et dans leur canal historique, qui est leur version plus bourrin, avec charge bouclier, avec coup à la tête, tout ça là, qui est vraiment pour faire du vrai combat, quoi. Enfin, du vrai combat entre guillemets. ça reste des armes en latex. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Mais là, eux, ils imposent, et là, dans les chroniques de Mortaz, donc dans la guerre des baronnies aussi, ils imposent une tenue correcte, entre guillemets.
D'accord, donc un minimum de RP.
Voilà, un minimum de RP. Comme dans tous les GN, ils autorisent les chaussures un peu modernes, mais camouflées. Surtout quand tu fais du combat, c'est important d'avoir des bonnes chaussures.
Oui, vaut mieux.
Ça arrive tout le temps, quoi. Donc, ils ont quand même cette volonté d'avoir quelque chose de scénarisé, surtout dans Invasion in the Berry. Tu vois qu'il y a vraiment quelque chose. C'est un GN qui se veut, qui est une confrontation entre différentes armées. C'est ça, c'est la guerre, quoi.
D'accord.
Donc, c'est la guerre et on joue la guerre. Il y a des stratèges qui sont dans la.
Oui, voilà, t'as postes, un vrai côté wargame.
C'est eux qui décident, eux, ils vont jamais combattre. Et à côté, t'as les et donc, l'état-major ont des, entre guillemets, vrais persos. Avec une histoire, un background, tout ça. Et les péons, donc les gars dans les armées n'en ont pas. Par contre, tu peux t'en faire. Ils encouragent, par contre, les gens, donc les péons, les soldats, à jouer roleplay et à surtout pas trop dériver du roleplay et à rester parce que ça reste un GN et on doit le jouer, quoi.
D'accord. Mais juste la question par rapport aux états-majors et ceux qui donnent les ordres. Sur le côté wargame, enfin, j'imagine des mecs qui sont devant une grande map en disant ok, eux se sont déplacés là, on va demander à telle garnison de se déplacer, machin et tout, c'est ça, j'imagine.
Alors je vais pas trop en parler parce que moi j'ai pas encore fait, j'ai lu leurs règles et les règles qu'ils mettent à disposition, celles de 2015.
D'accord.
Donc je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai compris, c'est que l'état-major effectivement ont des cartes stratégiques. Et avec des estafettes pour pouvoir dispatcher les ordres.
Voilà, etc. tu viens exactement
et,
là où je viens.
Exactement. Et apparemment, il y a une ou deux batailles organisées par les organisateurs. Le reste, c'est aux joueurs de faire leur bataille.
Mais ça, c'est super intéressant comme mode de jeu parce que, enfin, on n'imagine pas la difficulté. Je vais faire une analogie avec un jeu de plateau qui est Mémoire 44, qui est simplissime à mort, mais qui te donne en fait, simplissime. Oui, je juste vois secouer la tête à Ariane Melo. Il est pas simplissime à mort, mais genre dans les mécaniques de jeu de base, il est assez basique. C'est le cas de le dire, mais il implique une mécanique de jeu qui est ultra intéressante, qui est le brouillard de guerre. C'est-à-dire que et même ça, on n'appelle pas vraiment ça brouillard de guerre, mais c'est la distribution des ordres. C'est-à-dire que finalement, tu peux être super bien placé pour attaquer une garnison adverse et peut-être même gagner la bataille grâce à ça. Mais si tu n'as pas l'ordre qui va avec, tu ne le fais rien. Tu vois où j'en viens ?
Bien sûr, ouais.
Et c'est que du coup, sur ce genre de jeu en GN, c'est ultra dur de se rendre compte le boulot des scouts, le boulot des estafettes qui vont distribuer les ordres, parce que c'est un boulot monstre. Et sans eux, finalement, il n'y a rien qui est fait. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de me dire, si moi je suis le gars qui mène ma garnison de 50 bonhommes, qui peut faire une percée au bon moment sur le flanc de la plus grosse armée qui est en train de tout ravager et peut-être faire gagner, retourner la bataille, mais que j'ai pas l'ordre qui va avec, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que le mec il peut agir ou pas en fait ? Et ouais, c'est ce genre de truc qui est super intéressant.
Et c'est pour ça, et après je te laisse parler, Yamino, pardon, c'est pour ça que je prouve que ce genre de GN, et moi j'appelle ça des GN parce que pour moi c'est des GN, ont leur place dans les GN, que ce soit comme des one-shots, comme que ça, ou comme ils ont fait dans les Chroniques de Mortras, imbriqués dans une série, une campagne de GN classique avec des intrigues et ce genre de choses. Je trouve qu'on amène un aspect du jeu de rôle, donc du jeu de rôle, de la simulation, qu'on ne peut pas avoir dans un Metfan comme Conan ou Kando. Quoi.
Oui, bien sûr. Mais non.
Oui, alors pour de rebondir sur deux choses, j'ai des potes qui ont fait Berrichon, champ de bataille, donc avant que ça change de nom, et qui disaient que le travail de tout ce qui était diplomate, parce que tu as des compagnies de rangers, si tu ne vas pas négocier leurs tarifs, etc., ils ne viennent pas t'aider dans la prochaine bataille. Tu as tout le travail d'estafette, etc. Il y a finalement tout un aspect roleplay. Là, ils ont vraiment kiffé ça. Alors qu'eux, ils ne sont pas très, très combattants, mais mes potes qui ont participé à ça, ils avaient vraiment adoré cette partie-là. Et pour imbriquer des jeux de wargame avec des jeux normaux, il y a aussi Camp du Dragon qui fait la même chose, qui ont des gènes campagne historique, ce que moi j'ai fait. Il y a aussi des champs de bataille. Et pareil, dans les champs de bataille, ils mettent des scénarisations, des missions, des choses comme ça. Les gens qui peuvent venir juste pour faire du roleplay, je vais faire un soigneur, ou je vais faire un diplomate, ou je vais faire un marchand, je vais aller négocier dans différents camps.
Ouais, avec le problème de la guerre, avec le problème des soldats qui vont peut-être
te tomber dessus, etc. Ouais.
Et ça, c'est super intéressant, mais j'imagine, en fait, je refais une relation à l'airsoft, mais du coup, moi, avec mon club d'airsoft, on avait essayé à un moment de faire une un gros week-end organisé avec, je sais plus, il y avait 500 ou 600 joueurs. Et le gros problème qu'on a eu en termes d'organisation, justement, c'est la communication entre les différentes escouades, de se dire, bah, il faut se déplacer là parce qu'il y a une attaque ici, et machin. Et même avec des tokis sur l'époque, c'était super dur parce que le terrain était grand. Enfin, bref, je ne suis pas sur les problèmes techniques, mais justement, c'est le côté ultra intéressant d'avoir un général de guerre ou des généraux dans chaque camp qui vont essayer de gagner du terrain, de déplacer des escouades. Genre là, quand on fait du jeu de figurines à la Warhammer Battle, on se rend compte que c'est super pas facile en fait, de le faire. Quoi.
Le principe de chaîne de commandement, il est essentiel dans la guerre. C'est là que tu vois que quand tu passes en réel, tu dis « Ah bah oui, bah si, il y a un moment, le commandant qui ne dit pas au capitaine, qui ne dit pas au lieutenant, qui ne dit pas au quelqu'un qui fait les messages, ouais, etc. Bah, ça, t'as beau avoir un super plan, il va planter.
Ouais, clairement, oui. Bah écoute, putain, je suis super intéressé par ce genre de choses.
Mais oui, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que, et pour revenir à tout à l'heure, ce qu'on parlait des combats, tu vois, dans les Metfans comme Conan ou Kando, ce genre de truc, moi, j'ai du mal à faire ces combats-là, j'ai du mal à jouer, à combattre dans ces arènes-là, parce que c'est le combat de façon GN, j'ai du mal avec. Parce que peut-être que j'ai fait d'autres combats, parce que j'ai fait des sports de combat et ce genre de choses, et que du coup c'est un peu dans la retenue, ou c'est, je sais pas, moi ça me convient pas. Après, c'est pour ça que je vais pas en faire beaucoup, moi, dans Conan ou dans Kando, parce que je vais plutôt rechercher autre chose. Je vais rechercher les quêtes, je vais rechercher le jeu diplomatique, le jeu stratégique, parce qu'il y en a dans Conan et c'est super intéressant, mais je vais pas rechercher ça. Donc en fait, d'avoir une offre qui me propose ce genre de GN dans l'année, et en plus si ça peut être dans une continuité, moi je suis à fond, et j'ai envie de dire aux gens, si vous recherchez un peu plus de contact, un peu plus à vous friter quelque chose qui est moins frustrant que le GN, on peut le faire de façon complètement sécurisée. Je veux dire, moi je suis ressorti de la guerre des baronnies, j'avais un bleu à la cuisse parce que c'est un peu l'endroit où tu te prends le plus de coups, mais j'avais rien d'autre, quoi. J'étais en pleine forme. Voilà, c'est safe parce que c'est des armes en latex, parce qu'on est encore dans du combat GN +++, donc quand même assez pas dangereux en tout cas.
D'accord.
Voilà quoi.
Et au niveau technique, les mecs les gens que tu as rencontrés là-bas sont bons niveau combat?
Ouais, j'ai rencontré des gens super bons, ouais. Des archers, parce que justement, juste pour revenir sur la guerre des baronnies, il y a une place aux archers qui est super importante, c'est-à-dire que tu pouvais avoir jusqu'à 12 points de vie. Si tu prenais trois coups dans la tête, t'étais mort de toute façon. Et les flèches, si tu prenais une flèche dans la tête, t'étais mort. Si tu prenais une flèche dans le corps, il te restait un point de vie, ce genre de choses. Donc en fait, ça mettait les archers à une place qu'on ne voit jamais en GN.
Ultra forte.
Qui était ultra forte, mais je veux dire,
attends,
réaliste.
Mais attends, si tu prends une flèche, tu dis quoi?
Si tu prends une flèche dans la tête, t'es mort.
Et ailleurs, c'est un point de vie.
Dans le corps, en fonction de ton niveau d'armure, normalement, c'est soit t'es mort si t'as vraiment zéro armure. Ah non, c'est un point de vie. Et c'était vraiment super armuré, mais t'as rarement quelqu'un qui a 60 kilos d'équipement sur le corps. Ouais. T'as deux points de vie ou un point de vie.
Et tu tombes à un point de vie, c'est ça que t'es en train de dire?
Non, c'est-à-dire qu'il te reste un point de vie.
Oui, tu tombes à un seul point de vie restant.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est super violent.
Oui, c'est super violent. Mais parce que c'est vrai, je veux dire, à l'époque, les archers, c'était hyper important.
Ah oui, ouais, clairement.
Les Anglais ont botté le cul aux Français, d'ailleurs.
Ouais. À Bouvines.
Ouais. Inversement.
Et inversement.
Oh là là là, ça va, hein.
Alors, violence. Comment tu viens de battre, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, mais tu vois, mais voilà, mais c'est le côté, tu sais, c'est peut-être le côté le plus réaliste par rapport à des GN classiques, parce qu'effectivement la partie combat, moi j'ai jamais fait de GN, je le rappelle, mais c'est vrai que pour ce que vous m'avez raconté, pour ce que les photos que j'ai vues, etc., finalement dans les GN classiques, mais justement le combat, c'est de la simulation de simulation. Grosso modo, c'est plus du. C'est un peu moins réaliste qu'un vrai combat, quoi.
Ah oui, mais il est moins réaliste parce qu'on fait attention à ce qu'on donne et on n'a pas envie de faire mal à l'adversaire, en fait.
Non, même pas, dans le contexte. À part chaque fois le combat final qui est quelque part le moment où vous vous défoulez tous sur la toute fin et qui n'est pas du tout stratégique.
Non, clairement
là,
pas.
Là, justement, vous avez quelque chose qui ressemble à une réalité. Ouais. Et qui est une vraie, véritable simulation, comme les GN classiques sont de la vraie simulation de stratégie, de commerce, etc., de magie et tout, quoi.
Et tu vois, moi, justement, un truc qui me saoule la plupart du temps dans les combats de GN, c'est les pouvoirs, en fait. Parade, esquive, pied cloué, brise-bouclier. Alors, le pire, c'était Norland. Pourtant, c'était cool, Norland, mais quand on a fait PJE, PJA, pardon. Et là, c'était horrible, quoi. Esquive machin, résistance bidule. Et tu fais, putain, stop, on discute, tu vois. Tu fais, putain, c'est un combat, les mecs, quoi. Et bon, après, je peux très bien comprendre. Je dis juste que moi, ça me correspond pas. Et je pense qu'il y a plein de gens à qui.
Ouais, je peux comprendre la frustration là-dessus. Hein.
Vive les GN, minimaliste au niveau des règles, sans aucune annonce pendant les combats.
Exactement.
Ah oui, ouais, parce que c'est difficile à gérer. Ouais, c'est difficile à gérer et l'annonce, et les points de vie, et les coups que tu donnes, et faire attention à pas faire mal.
Et je renie pas les autres types de GN. Attention, hein, je dis pas que c'est les meilleurs styles de GN.
On n'est pas là pour juger sur ce qui est
entre guillemets nordique, mais ça m'attire énormément parce que c'est d'autres choses, parce que c'est une exploration, je veux dire, de l'être. Voilà, je vais pas partir de la philosophie, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est le rapport au corps, au combat, c'est aussi intéressant parce qu'on peut le faire dans les GN et c'est quelque chose qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Les expériences qu'on peut avoir en murder, qu'on peut avoir en.
On va rappeler
rapidement. Faites du GN, c'est génial.
On va rappeler rapidement parce qu'on parle de GN nordique, mais c'est vrai qu'on, je crois qu'on l'a pas vraiment expliqué ce que c'était ici. Comment expliquer ça rapidement ? On est à l'opposé entre le GN, ce qu'on appelle le Medbourg, c'est-à-dire le combat pur et dur où on avait juste tapé sur des gens parce qu'on aime faire ça, et le GN nordique qui est un peu l'exploration de un truc semi-théâtral en fait, où il va y avoir en fait plus une mise en scène et une question de d'acting réel des gens sur le côté. Il y a une scène qui est scène 1, c'est genre le 31-12 de chaque année. On va jouer trois fois un 31-12 sur trois ans différents. Et l'ambiance de la scène va être ça, et voilà ce que vous allez faire, et voilà comment je commence. Et là-dedans, on va devoir explorer notre perso, nos envies, ce qu'on a envie de faire ou pas. Et c'est un côté un peu plus intimiste, un peu plus...
expérimental.
Expérimental, ouais, c'est un peu ça.
Et un pro.
Et un pro, c'est pour ça que je parlais de théâtre et d'acting, en fait. C'est vraiment du côté... Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a même certains nordiques où les rôles sont complètement ouverts, enfin transparents, dans le sens où tout le monde connaît le rôle de l'autre. On sait le bac de chaque personne. On sait que machin a tué truc. On sait que lui, c'est un ancien prisonnier ou ce genre de choses. Donc, il n'y a vraiment pas de rôle caché. Mais il y a un côté vachement plus intimiste parce qu'on cherche... autre chose, on cherche à expérimenter d'autres choses dans le côté théâtre et se faire ressentir
des
émotions plus différentes.
Ouais, et c'est ça que je trouve génial dans le GN, en fait. Si on peut faire la comparaison avec le cinéma, par exemple, on peut très bien aimer un film d'auteur et aimer un film d'action, un film de combat, et dans le GN, on peut très bien aimer vouloir juste se foutre sur la gueule aimablement, et ou alors expérimenter des nouvelles choses, faire un GN drôle, faire un GN sérieux.
Oui, clairement, il y a eu un GN chaussette là qui a eu pas longtemps, qui a un truc parodique sur les super-héros. Ah, voilà, quoi,
on a eu plusieurs avec des mangas où les gens étaient déguisés en personnages de manga, mais complètement loufoques, où tu avais un mec derrière qui mettait des bulles pour...
Oui, voilà, pour faire parler les gens. Ouais. Voilà, donc oui, le GN, c'est cool, on l'arrête pas de le dire, hein, c'est une grosse passion ici. Non, toujours pas, Christophe, tu veux pas faire de GN, venir se foutre sur la gueule avec
ton être.
C'est pas ça comme ça, c'est triste.
Tu veux pas que j'explore ton...
C'est triste. Je vais juste revenir parce qu'on a fait une longue chronique là-dessus, mais ouais, tellement intéressante de ouf que j'ai kiffé. Mais sur ton truc en Italie avec les morceaux de bois qu'on mettait sur la gueule, là, comment cocotte. Ça se passe en termes de règles? Ça, t'as dit
alors,
au début,
règles,
t'as fait une
rapidement.
Charge, t'es mort, mais comment on fait?
Alors, comment tu fais en fait? Donc, t'as le droit qu'au cou, au corps, donc pas aux jambes, pas aux bras, pas à la tête, si aux bras, aux épaules, aux avant-bras, tu peux le faire. Et en fait, t'as un point de vie. T'as un point de vie, et par contre, si quand t'as une armure, tu as deux points de vie, donc ça peut être quand le mec te touche sur la main, tu fais uno ou uno braccio pour dire que t'as le bras, et puis alors, quand tu touches de froid au bras, t'as le bras derrière. Si on te retrouche le bras, t'es mort. Donc en fait, c'est très rapide, c'est un point de vie. Et
voilà. C'est ultra rapide, c'est même ta charge, ça doit faire juste mal, quoi.
Les combats durent à peine 5 minutes, des fois 10 quand ça. Quand vraiment les lignes sont bloquées et que les mecs n'arrivent pas à contourner. Et après, il y a les batailles de Fortin qui durent un peu plus longtemps. Mais,
mais quand tu prends un coup, tu tombes à terre et tout, ou tu sors de la mêlée?
Ah, tu tombes à terre.
Oh.
Ouais, tu sors pour pas rester en plein milieu des combats.
Ouais, bien sûr.
Comme tous les GN de combat, d'ailleurs. Hein. C'est la règle.
Pas que dans les GN de combat. Au rugby, quand tu tombes, tu essayes de sortir de la mêlée.
Oui, voilà, mais d'accord, mais au rugby, t'es pas censé être mort. Enfin, si tu le laisses,
ouais, mais tu peux être piétiné, quoi.
Oui, mais c'est le point que j'essaie d'amener.
Le gros problème,
ouais,
c'est ça.
Piétiner en plein milieu, quoi. Ok, écoute, merci Kétrus, j'ai kiffé ce début d'histoire vraie sur l'Italie, je sens que ça va faire des émus. Tu vas nous balancer ton petit mot d'énigme pour le concours, et après on va faire un dernier appel à la fin de l'émission, on t'écoute.
Oui, bien sûr, ça va être Chevalier en 4.
Chevalier 4. Ok, je crois qu'on a fait le tour de cette émission. On a un peu plus d'une heure, si j'en crois ma montre. Eh bien, merci à vous trois. Je rappelle donc pour le petit laïus que La Ligue des Joueurs Ordinaires est une émission produite par Radio Kawa, que je remercie chaleureusement. Je remercie Inks pour mettre cette émission en ligne tous les premiers samedis du mois à 18h quand moi je suis en train de faire du GN ou autre chose. Donc merci à lui, merci à Radio Kawa de nous supporter depuis bientôt 2 ans, messieurs. Bientôt 2 ans, je le rappelle. 1 an et demi. Voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur iTunes. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes, des étoiles pour nous faire monter, pour dire que vous kiffez l'émission, parce que nous aussi, on vous kiffe. Vous pouvez nous retrouver sur tous les sites de téléchargement de podcasts, tous les bons en tout cas. Suivez-nous sur Facebook, la Ligue des Joueurs, sur Twitter, @laligue, et sur Instagram. Non, on n'y est pas encore. J'ai oublié de faire le compte, mais ça va être un running gag, ce truc. Je rappelle donc qu'il y a le concours en place pour le coffre à jouer, pour gagner 1 mois de coffre à jouer avec le partenaire donc de coffre à jouer, hein, je le dirai jamais assez. Je vais rappeler on va rappeler chacun notre tour les 4 et mots. Donc moi, ce sera vaisseau 3,
dune 4,
énigme 4,
chevalier 4.
Voilà, donc allez voir sur Facebook, sur le Facebook du coffre à jouer, vous aurez donc cette petite grille de 5 sur 5 de codename avec les différents jeux à l'intérieur, et vous devez relier donc, par exemple, vaisseau 3, il faut trouver 3 jeux qui sont en rapport avec un vaisseau, et ainsi de suite.
Et surtout pas trouver le jeu interdit.
Ah voilà, merci Ariamelo de le rappeler. Donc il y a un jeu interdit qui est le jeu, le mot noir, hein, pour ceux qui connaissent les codes, les règles de codename, c'est là-dedans. Donc si vous nous le citez, bah, c'est perdu, malheureusement. Donc faites attention à ce que vous citez. Non, on n'a pas été trop salaud là-dessus, vous inquiétez pas. Bref, envoyez-nous ça directement par message Facebook en PM ou en DM sur Twitter. Et pour tous ceux qui auront la chance d'avoir le plus de points, on fera un tirage au sort et vous gagnerez. Vous serez annoncé soit sur Twitter, soit sur la prochaine émission, je ne sais pas encore, on verra, mais vous serez annoncé et vous serez prévenu en tout cas. Merci à tous, merci à vous trois en tout cas, et on vous retrouve le mois prochain pour une émission bucolique, j'ai envie de dire, un peu à la campagne.
Champêtre.
Wow. Où on sera dans une maison de campagne qui n'est pas à nous, qu'on n'aura pas loué, mais qu'on nous prêtera pour l'occasion, et puis on fera une émission là-bas, donc il y aura peut-être une ambiance sonore un peu particulière.
Avec un feu de bois.
Oh oui.
Ça va dépendre de la température.
Il y aura Karine Le Marchand ou pas?
Non.
Okay.
C'est qui?
L'amour est dans le pré.
Je dis non, mais je sais pas qui c'est, je regarde pas tout. Ok, bon allez, merci beaucoup. Ciao, ciao, et on se retrouve le mois prochain. Ciao les gars.
Bye bye.
Ciao.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin?
Ah mais ouais, mais là c'est chaud là quand même, c'est chaud!
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les 2 semaines sur Radio Kawa.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.